déplacé si nombreux ce samedi matin pour le Capitole du Lit 2014. Donc, ensemble, on va voir une problématique qui, à notre sens, paraît importante, c'est la supervision de son système d'information, sous peine d'avoir de gros soucis. Le but, ça va vraiment être d'expliquer pourquoi il faut absolument avoir une supervision pour son système d'information dans un contexte entreprise. Ce que ça va pouvoir vous amener, tout ce que ça va vous sauver aussi. Et voilà, donc on va d'abord faire une présentation, la petite partie égocentrique. On va faire une généralité pour mettre un peu à plat la supervision. Ça ne sera pas une présentation de qu'est-ce que la supervision, comment marche la supervision. Là, c'est vraiment de parler de l'intérêt. C'était un niveau qui était quand même intermédiaire, donc normalement, vous devez déjà avoir un peu des notions par rapport à ça. Ensuite, on va balayer cinq points qui me semblent primordiaux, par rapport à l'intérêt d'avoir une supervision. Et enfin, on fera un petit bilan et puis on se gardera du temps pour des questions, un petit débat. Donc, comme ça a été dit, je m'appelle Mathieu Cinquin, je suis consultant chez Meritis, qui est l'éditeur logiciel de Centrion. Centrion, c'est un outil de supervision open source. Très rapidement, sur mon parcours, j'ai découvert la supervision il y a à peu près 8 ans, en fait, avec Nagios, qui était l'outil phare de supervision open source à l'époque. Et au fur et à mesure, ça m'a plu, et il y a 2 ans et demi, j'ai décidé de passer le cap. Et j'avais découvert entre temps Centrion et je me suis dit, ben voilà, c'est un outil qui me plaît, donc j'aimerais bien travailler avec eux. Donc c'est comme ça que j'ai rejoint Meritis qui a une présence sur la Belgique. Un peu plus sur Centrion, donc c'est un produit qui commence à être assez vieux, hein, on va dire. Il a été créé en 2003 en fait. Il a quand même il est franco-français, mais on est quand même très utilisé dans le monde. On a plus de 185 000 utilisateurs à travers le monde. On a 19 000 contributeurs utilisateurs qui sont identifiés. On a 95 contributeurs sur tout l'ensemble des projets en cours. Et on a à peu près un peu plus de 16 500 téléchargements par mois de version comprenue. Donc on fait partie des outils un peu forts au niveau de la supervision open source. Donc les généralités sur la supervision. Dans la salle, n'a jamais entendu parler de supervision de sa vie? Ne soyez pas... Vous pouvez bien lever la main, il n'y a pas de souci, ok. Donc, tout le monde comprend le concept. Donc, pour monsieur.
Non, mais on va
quand même en parler. La supervision, c'est une technique de suivi et de pilotage. Donc, c'est ce qui va vous permettre de superviser, de surveiller votre système d'information, mais pas que. On peut le définir en fait avec une roue vertueuse que vous avez, avec la première étape qui surveille, forcément. On va essayer de vérifier, de voir s'il y a quelque chose qui ne va pas sur notre système d'information. Si on remonte un état, on détecte un état en fait anormal, un état dégradé, on va dire, et bien on va alerter, c'est-à-dire qu'on va prévenir les personnes qui sont en charge de l'élément de l'équipement qui a remonté un état dégradé pour dire attention, il y a un dysfonctionnement potentiel sur cet élément-là. Donc ça va être alerté par mail, par n'importe quel moyen de communication, mais le but c'est vraiment de prévenir pour que la personne soit au courant le plus rapidement possible. Une fois que la personne a reçu cette alerte, donc elle va voir exactement sur quoi apporter le dysfonctionnement, et elle va analyser. Donc elle va voir, elle va essayer de chercher et de trouver les causes de ce dysfonctionnement à partir d'informations de la supervision, à partir d'informations venues d'autres outils. Une fois que l'analyse a été faite, et si on a réussi à trouver l'erreur, le dysfonctionnement, on va le réparer, on pourra faire une action corrective. Autrement, si on ne trouve pas, le but c'est quand même de pouvoir remettre le service en fonctionnement le plus vite possible. Donc, on va faire une action de contournement. On va contourner pour essayer de remettre le service, même s'il est dégradé, voilà. On va essayer de remettre ça en place. Donc ça, c'est la partie agir. C'est vraiment travailler sur le souci pour le réparer, pour le contourner, pour remettre le plus vite possible. Et on repart sur la partie surveillance. Et là, on va boucler sur la surveillance jusqu'à ce qu'on ait de nouveau une remontée d'état anormal et on repartira dans la boucle. D'accord ? Un système de supervision, qu'est-ce que ça fait ? Ça va superviser, quand même, dans le monde des choses. Qu'est-ce que ça va superviser ? Le périmètre. On va avoir de la supervision réseau, ça va être les switches, les routeurs, les firewalls, plein d'autres choses. d'autres choses encore. De la supervision applicative, donc on va faire par exemple du site web, on va faire des clients lourds, ça va être peut-être votre service de paye que vous avez développé pour votre société, ça va être tout ce genre de choses. On va faire la supervision système, donc, vérifier si les processus fonctionnent bien, si les taux d'utilisation de CPU, de mémoire. La supervision système, mais aussi la supervision hardware, c'est un peu lié, mais bon, j'avais pas trop la place de le rajouter. On va vérifier mais si un ventilateur fonctionne bien, si une alimentation d'un PC fonctionne bien, voilà, tout ce genre de choses. Pour résumer, ce qui est capable d'être supervisé, c'est à partir du moment où un élément, un équipement, une adresse IP est joignable sur le réseau et met à disposition des informations sur son état, on peut le superviser. On discutait hier avec certaines personnes à la journée pro associée au Capitole du Libre, avec Solibre. Le truc super intéressant qui pourrait être fait, c'est superviser les machines à café dans les entreprises. Vérifier s'il y a assez d'eau, s'il reste assez de café, s'il reste assez de sucre. Parce que si vous avez une dépendance de la machine à café avec les informaticiens, c'est fini. Donc voilà, ce genre de choses, c'est imaginable en fait. Si la machine à café est connectée, on pourrait superviser ça en fait. Après avoir fait donc la supervision de ça, il y a une retranscription des états. Donc c'est ce que je vous disais, afficher si c'est un état qui est bon, si c'est un état qui est dégradé ou si c'est un état qui est critique. Donc on représente souvent ça par un feu rouge, parce que ça reprend les codes couleurs en fait qu'on utilise. Vert, ça va être un état qui dit OK, généralement, donc ça veut dire que tout est bon, tout fonctionne bien. On a le feu orange qui est un état dit dégradé, c'est-à-dire que c'est pas encore critique, mais il y a un début de... il y a quelque chose qui ne va pas, qui pourrait entraîner quelque chose de plus grave derrière. Donc ça c'est... en anglais on dit ça, généralement on dit ça warning en fait, l'état. Et enfin, il y a le dernier état, donc au rouge, c'est l'état dit critique, en fait, c'est là où vraiment il y a un dysfonctionnement, donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Une fois qu'on a affiché, enfin, qu'on a réussi à remonter ces états, en fait, on peut faire ce qu'on appelle des réactions automatisées. Donc, c'est-à-dire qu'on va agir automatiquement pour réparer le souci. L'exemple le plus flagrant, c'est votre service Apache, par exemple, pour fournir votre site web, le processus n'est pas actif, ne tourne pas, mais on va, sur la retranscription de l'état en disant attention, il ne fonctionne pas, et bien on va le relancer automatiquement. Donc ça va permettre d'être beaucoup plus rapide dans la résolution du problème. Toujours lié à la retranscription des états, on va faire de l'alerte, ça je vous en ai parlé. Donc on va prévenir les personnes concernées, c'est très important, on ne va pas envoyer à toute la terre entière, parce qu'il y a des gens, ça ne les intéresse pas, on va vraiment viser la personne qui est concernée. Donc si c'est un problème de base de données, l'administrateur de base de données, ainsi de suite. Ce qu'on peut faire à partir de la supervision, on peut faire aussi de la cartographie. Donc on va avoir des vues qui peuvent être géographiques, des vues de métier, tout ce genre de choses, pour avoir une vision soit globale, soit parcellaire de son système d'information, dans lequel on va remonter les informations à la supervision. Donc ça va être, à la place d'avoir un tableau avec qui liste tous les éléments avec les états, on va avoir une vue un peu plus sympathique, un peu plus représentative en fait. On peut prendre par exemple en photo sa baie de disque et positionner l'état de chaque disque, dans une vue cartographique. Dernier point, c'est le reporting, donc c'est tout ce qui va être les rapports. On va être capable de faire des rapports en se basant sur la supervision pour avoir des taux de disponibilité, de fiabilité, de maintenabilité. Les rapports, ça va surtout, on va le voir après, servir pour un peu justifier son travail et pour remonter les informations au DSI, parce que le DSI, ils aiment bien tout ce qui est graphique, les camemberts, les barres, ça leur parle beaucoup plus qu'un tableau en fait. Tu vois déjà des personnes qui sourient, donc je dis pas de bêtises. Est-ce que c'est clair pour tout le monde la supervision? C'est bon? Allez, on enchaîne alors. Donc pourquoi? Au-delà du fait de superviser purement et simplement, il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas forcément et que je vais vous montrer lors de cette conférence. Donc tout d'abord, pour sortir l'admin réseau et système de sa grotte. C'est pas péjoratif, j'ai été un admin, ce qu'on appelle un admin ours, tous les plus de 30 ans connaissent la définition ici. Qui n'a pas dans son entreprise un administrateur système qui ne connaît que son monde, qui ne veut pas entendre parler d'autre chose que ses serveurs, qui ne discute pas avec d'autres personnes, qui est borné un peu, voilà. Admin ours, c'est quelqu'un qu'on ne va pas voir dans son bureau, parce que son bureau c'est satanien, c'est souvent noir, il y a des câbles qui traînent partout. qu'il y a des ordites désossées un peu partout, ça fait un peu fouillis. Et généralement, ah, il faudrait que tu ailles voir l'admin, non, je veux pas y aller, vas-y toi, ou attends, je vais lui envoyer un mail, ça sera plus simple. Puis surtout, ils ne parlent pas le même langage que nous, que tout le monde, c'est-à-dire que, enfin pas que nous, parce qu'il y a beaucoup d'admissions dans la salle, mais que tout le monde, il va utiliser que des termes techniques, il va rigoler à des blagues que personne ne comprend, il n'y a que lui et ses copains qui comprennent. Donc voilà, mais le problème, c'est que cet admin-ours, ça allait bien il y a 10-15 ans. Maintenant, l'informatique a évolué, il ne peut plus rester dans sa tanière, il ne peut plus rester en mode admin-ours. Parce que l'infrastructure informatique a évolué. On a une diversité des technologies, une diversité des applications, une diversité des fournisseurs. Avant, l'informatique, il y avait le mail, un intranet, et ça s'arrêtait là. Maintenant, il y a des applications pour tout, comme on dirait. D'accord ? Il y a une application pour la paye, une application pour la RH, une application pour les DSI, il y a pour tout, la gestion de projet, tout ce genre de choses. Qui sont basées sur des technologies qui sont de plus en plus différentes. On parle maintenant de cloud, avec hybride, cloud privé, cloud public, IAS, PAS. On va pas faire tous les acronymes. Donc je vous ai dit une diversité d'applications, une diversité des fournisseurs. Avant, l'informatique, c'était l'administrateur système dans son coin qui faisait que ça. Il faisait souvent aussi admin réseau. Maintenant, on va avoir des SS2I, des prestataires, on va avoir des infogéreurs, on va avoir des éditeurs logiciels sur lesquels on s'appuie. Donc l'admin système, il ne peut plus rester cloîtré chez lui. Il est obligé de discuter avec tous ces gens-là et de se tenir au courant de tout ce qui se fait aussi. Et du fait que l'informatique en fait, a pris de plus en plus de place dans une société, c'est par exemple le mail qui est coupé pendant 2 heures dans une société, la société ne bosse plus. C'est fini, il n'y a plus rien qui fonctionne. Vous avez le grand patron qui vient vous voir et qui vous tombe dessus pour vous dire que le mail doit revenir dans la minute qui suit. Donc vraiment, l'informatique est devenue un point central en fait, de l'entreprise. Sans l'informatique, une entreprise ne fonctionne plus. Donc ce qui fait que derrière, il y a des nouveaux besoins, les besoins évolués, des besoins de performance, des besoins de disponibilité. Maintenant, il faut que ça réagisse vite. Qui n'a pas râlé devant son PC parce que la page web, elle a mis plus de 10 secondes à s'afficher. À l'époque, il y a 10 ans, ce n'était pas grave. Maintenant, il faut que tout arrive immédiatement, il faut que ça soit très... faut que ça réponde très rapidement, en fait. On a besoin de disponibilité. La paye, du 1er au 15, c'est pas grave si le logiciel de paye ne marche pas, mais du 15 au 30, s'il ne marche pas, ça va poser problème. C'est-à-dire que la paye, elle ne sera pas envoyée derrière, et lui, il ne voit pas les salaires. Donc, il y a vraiment... effort à faire sur la disponibilité du service informatique fourni. Et après, il y a un besoin utile, donc ça c'est un terme un peu barbare, on va le voir juste après. C'est un ensemble de bonnes pratiques pour la gestion des services informatiques et ça demande de mettre en place certaines choses en fait. Donc pour toute cette raison, comme je l'ai dit, l'admin système réseau ne peut plus rester cloîtré dans sa grotte, il doit être en relation avec les besoins de métier pour être cohérent et efficace. Et le fait de la supervision en fait doit lui permettre de s'ouvrir. Que pour superviser les besoins métiers, pour superviser les services informatiques dont les services de toute la société ont besoin, les entités de la société ont besoin, il est nécessaire qu'il aille discuter avec eux. Qu'est-ce que tu veux superviser? Qu'est-ce qui est important pour toi? De quand tu en as besoin? Est-ce que ça a besoin d'être réactif? Ou si c'est un peu moins réactif, c'est pas grave. Donc ça l'oblige en fait à s'ouvrir, parce que derrière toutes ces informations qu'il va recueillir, il va pouvoir les mettre dans la supervision et ça va permettre derrière d'être efficace et cohérent lors de la correction d'erreurs, et donc il va pouvoir être beaucoup plus réactif et satisfaire le besoin client en fait. Donc la supervision est un levier pour en fait le faire sortir un peu de sa grotte. Deuxième point, c'est pour être utile. Que des gens, on va plus faire tout à fait l'inverse, qui ne connaît pas utile? N'a jamais entendu parler. Je suis surpris. Alors utile en fait, c'est un référentiel international de gestion de services informatiques. En fait, c'est quelque chose qui décrit un ensemble de bonnes pratiques à mettre en place pour bien gérer un service informatique. Donc c'est basé sur des multiples processus en fait, qu'on va vous demander de mettre en place pour bien gérer. Le but là, c'est pas d'expliquer, faire une présentation d'ITIL, mais voilà. Dans ITIL, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un processus qui s'appelle la gestion des événements. Et quand on regarde en fait sa définition dans la documentation ITIL, on se rend compte que c'est un processus qui est mis en place pour mettre de la supervision. Parce que dans ses objectifs, il est décrit qu'il doit surveiller, détecter. C'est typiquement les deux mots-clés de la supervision, surveiller et détecter. Donc en fait, il vous dit de mettre en place de la supervision. Ensuite, il vous dit objectif de déclencher des processus d'exploitation, des incidents, des problèmes. Ben ça va être avec l'alerting, avec l'alerte, le fait d'envoyer, de dire attention, il y a un problème. Et on pourrait imaginer derrière de créer automatiquement un ticket dans l'outil ticketing de la société pour dire j'ai un état qui remonte dans ma supervision, derrière je crée un ticket dans l'outil de gestion des incidents et des problèmes pour dire attention, il y a un souci. Donc derrière, ça sera pris beaucoup plus rapidement en fait. Et après, il y a l'objectif de déclencher des activités. Ça, c'est ce qui est la gestion des changements, qui est aussi un processus utile. C'est utile vous dit que si vous devez changer un disque dur, si vous devez changer un serveur, faire une mise à jour sur un serveur, vous ne faites pas ça dans un coin, dans le sauvage. Ça doit passer par un processus qui doit être validé et planifié en fait. Donc la supervision va vous permettre d'anticiper en fait ce genre de choses. C'est ce qu'on va voir maintenant. Anticiper pourquoi ? Ça vous permet par exemple sur l'utilisation de l'espace disque de vérifier la consommation de l'espace disque. Et donc si vous voyez que vous arrivez bientôt à un taux d'utilisation qui est trop haut, ça vous permet d'anticiper et de dire attention, dans un mois, je vais être en maximum, il va falloir que j'achète des disques, il va falloir que j'augmente mon espace disque. Donc je vais pouvoir prévoir ma gestion des changements de suite. En fait. Après, il y a la gestion du niveau de service. Comme je l'ai dit, maintenant, une entreprise est composée de plusieurs entités. Et par exemple, on parlait de la paye. La paye va vous demander d'avoir un niveau de service précis, un niveau de service, par exemple, du 15 au 30 ou 31 de chaque mois, d'avoir une disponibilité, un niveau de service le plus haut possible. Donc ça, il va falloir que vous puissiez me suivre parce que vous engagez en fait sur ce niveau de service, vous engagez à mettre à disposition le service le plus efficient, le plus disponible possible. Donc pareil, ça, la supervision vous aide à pouvoir suivre ça. Un petit zoom sur les schémas. En fait, là c'est l'exemple des espaces disques. On va voir grâce aux données de supervision, en fait, on est capable de faire ce genre de rapport pour voir la consommation et l'évolution de la consommation de l'espace disque. Donc ça vous permet grâce à ce genre de rapport d'anticiper. Donc vous voyez la consommation chaque mois, son évolution, et par rapport à l'espace disque qui est alloué. Donc il y a un moment, si ça continue à grandir trop, ça va se croiser, et si ça se croise, ça ne viendra plus marcher. Ça veut dire que vous allez utiliser plus que ce que vous avez. Donc là, typiquement, grâce à ce genre de rapport, on va pouvoir anticiper la gestion de changement et on va pouvoir préparer une augmentation de l'espace disque. Pour la gestion du niveau de service, en fait, on va faire ce qu'on appelle le business activity monitoring. Donc, on va suivre des activités métiers, donc par exemple, ce que je vous disais, la paye. Mais on va avoir des indicateurs clés qui ont été fournis en fait par l'entité paye. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une discussion avec l'admin, donc il est sorti de sa grotte. Elle va vous dire attention, moi, c'est ces points importants qui m'intéressent. Donc, c'est ce qui va nous servir de base pour calculer notre niveau de service. Donc là, un niveau de service de 90% pour un taux qui avait été demandé de 35%. Donc là, on est largement bien. Si on avait demandé un taux de 95%, ce qui se passe, c'est qu'on voit qu'on a deux éléments qui posent problème. Là, c'est les télé-2 Space Orac, par exemple. Mais on sait que, grâce à la supervision, si on joue sur ces deux éléments, on va pouvoir remonter notre niveau de service et être conforme à ce qu'on avait vendu, en fait, ce qu'on avait promis à notre entité. J'ai pas perdu tout le monde. C'est la partie la plus compliquée, la partie utile, un peu la partie la plus théorique. Un troisième point, donc là on va redescendre, ça va être un peu plus technique, un peu plus compréhensible, c'est une aide à la résolution. À la résolution des problèmes, à la résolution des incidents. Ben pourquoi ? Parce que la supervision, c'est un point de départ. Ça va être une centralisation d'énormément d'informations sur votre système d'information. Donc vous allez pouvoir vous baser sur la supervision pour rechercher de multiples informations pour pouvoir résoudre votre problème derrière. Vous avez votre processus Apache qui a planté. Effectivement, la première solution, ça va être de le redémarrer. Mais s'il a planté, il y a peut-être une raison derrière. Donc on va aller voir sur le serveur qui héberge ce processus Apache s'il n'y a pas une surconsommation mémoire, une surconsommation CPU, s'il n'y a pas de problème d'espace disque, tout ce genre de choses en fait. Donc ça va vous permettre vraiment d'avoir plusieurs informations. Et aussi de retracer la chronologie. En fait, on va pouvoir voir si antérieurement, il n'y avait pas eu un souci qui a fait que derrière, ça a déclenché plein d'autres problèmes qui sont arrivés au fait que derrière le processus Apache, il ne fonctionne plus. Donc on va vraiment pouvoir avoir une chronologie complète et revenir à ce qu'on appelle la root cause, la cause d'origine en fait, du problème, la cause initiale. Le deuxième point, c'est un mot qu'on entend énormément et qui est très lié à la supervision, c'est la corrélation. On va corréler. Donc on va corréler, c'est un peu l'exemple que je vais donner, avec plusieurs informations de supervision. On va voir le CPU, le disque, on va voir d'autres informations. une raison première. Quand j'entends plusieurs informations de supervision, là, c'est surtout les états. Ok, on y critique, on voit la différence d'état, si on a eu des alertes. Après, on a ce qu'on appelle les données de performance dans la supervision. C'est tout ce qui est la métrologie, en fait. C'est ce qui va nous permettre de faire des graphes, c'est les valeurs. Dire que la mémoire elle est utilisée à 80%, le ping, vous avez une latence de 2 minutes, voilà, ce genre de choses, en fait. Et ensuite, donc on va pouvoir aussi, par rapport à ces données de supervision et à ces données de performance, faire de la corrélation tous ensemble. Et enfin, dernier point, on peut faire de la corrélation avec des informations venant d'autres outils. L'exemple le plus typique, ça va être un outil de gestion de log centralisé. Vous allez mettre en correspondance vos données de supervision avec vos logs. Et vous allez voir si vous allez pouvoir trouver des choses intéressantes et corréler, trouver une cause initiale. Donc ça va vraiment permettre à l'administrateur système d'être beaucoup plus efficace dans sa recherche de preuves. Tout ce que nous en tant qu'administrateur, d'entendre dire ça ne marche pas, et de partir de rien pour essayer de trouver où était le problème. Et là, c'est juste impossible à faire. La supervision va vraiment être un point de départ et va vous permettre d'avoir des informations supplémentaires pour mieux résoudre des soucis. Quatrième point, alors je vais faire un focus dessus parce que ça m'intéresse énormément en fait. Pourquoi le système d'information? Pour la sécurité. Vous allez me dire pourquoi. Tout d'abord, pour vérifier si la sécurité au quotidien de votre système d'information elle est fonctionnelle, elle est efficiente. Donc on va aller superviser tous les éléments de la sécurité. Quelques exemples, l'antivirus, le pare-feu. J'ai rajouté la caméra IP, c'est pas vraiment du système d'information, c'est plutôt la sécurité des personnes, mais c'est quand même lié. Qu'est-ce qu'on peut faire par exemple sur un antivirus? On va aller vérifier déjà s'il fonctionne, s'il tourne bien sur le poste client par exemple, ou sur un serveur. On va aller vérifier si sa version est bien à jour, et si la version des bases de données virales est à jour. Si ce n'est pas à jour, il y a potentiellement un risque, si quelqu'un reçoit un mail avec un virus dedans, voilà, d'infecter la machine. Donc ça, la supervision va le permettre. Ça va permettre aussi de superviser les firewalls. Là, dans l'exemple, c'est le nombre de connexions sur le firewall. On sait généralement, dans la journée, qu'on atteint un nombre moyen de connexions X. Si d'un coup on se trouve à un nombre de connexions Y, c'est soit on a une attaque, soit on a un applicatif qui est défaillant, qui fait trop de connexions vers le firewall. Et là, ça peut faire tomber le firewall, et là, ça paralyse le système d'information derrière, en fait. Sur les caméras IP, on va être capable de voir s'il y a des intrusions, par exemple. Comment? Maintenant, quasiment toutes les caméras IP font de la détection de mouvement. Et en fait, quand elles détectent un mouvement, elles se mettent soit à filmer, soit à prendre des photos, et elles les mettent dans un dossier, un répertoire particulier. Et tout simplement, on va aller vérifier si dans ce répertoire particulier, il y a des photos ou des vidéos. Et si on en a, ça veut dire qu'il y a potentiellement une intrusion. Voilà, ça c'est vraiment sur l'aspect sécurité au quotidien. Il y a un autre aspect qui est très important, c'est la recherche de preuves. Vous avez été victime d'une attaque et que vous en rendez compte, c'est déjà bien, parce que beaucoup de sociétés ne se rendent pas compte qu'elles sont victimes d'une attaque, et que vous avez eu une perte, vous allez devoir déclencher une action au niveau des assurances ou au niveau du tribunal, pour demander réparation, pour faire justice. Donc, si vous n'avez pas de preuves, si votre dossier est vide, que vous allez voir, vous dites « j'ai été attaqué », oui, mais comment, pourquoi, je ne sais pas. La plainte et l'action au prix des assurances, elle sera vide, elle ne sera pas recevable, donc ça ne servira à rien. Et ça va vous permettre aussi de faire la corrélation avec d'autres informations, on revient toujours pareil. Dans une conférence précédente, j'avais donné un petit exemple d'une start-up qui arrivait le lundi matin, le patron s'est rendu compte que le code source de son applicatif qu'il développait depuis 2 ans, il avait disparu. C'est bête. Avec chance, il a mis de la supervision de sa société. Donc, qu'est-ce qu'il allait voir? Il allait voir le responsable de la supervision et lui dire, écoute, le code source il a disparu, regarde si tu arrives à trouver des choses. Il allait voir tout simplement sur le serveur qui a été hébergé, il allait regarder la supervision de l'espace disque, et il a vu effectivement que le samedi après-midi, à 15h, l'occupation de l'espace disque est passée de 80% à 20%. Ça ressemble à une suppression de fichiers. Donc à partir de là, il a mis une note. À cette date, samedi 15h, il a fait un delta, il a fait plus ou moins 1 heure, et il allait regarder tous les événements de la supervision calés entre 14h et 16h. Et là, il s'est rendu compte qu'à 14h30, il y a une augmentation du trafic réseau entrant. Il y a une augmentation des connexions sur le firewall. bizarre pour un samedi après-midi, ils étaient tous en week-end, donc il y a un problème. Et donc avec ça, il a corrélé avec d'autres sources, il a mis une gestion centralisée des logs, et il s'est rendu compte qu'il y avait des milliers et des milliers de connexions SSH. Bizarre, très bizarre. Et justement, pendant la période où il y a eu l'augmentation de trafic, enfin, c'était un peu bien fait. Et ben grâce à ça, il a pu voir qu'à un moment, la connexion SSH est passée, l'authentification est passée, et donc la personne a pu se connecter sur le serveur et supprimer. Donc, avec la supervision, il a réussi à retracer l'attaque, à voir tous les éléments qui sont passés, il a réussi à récupérer les preuves, et avec ça, ils vont pouvoir aller au tribunal et auprès de l'assurance pour voir ce qui est possible de faire. Cette attaque est imaginaire, hein. On est bien d'accord. Hein. Donc voilà l'intérêt d'une supervision. Et pour en avoir discuté avec des gendarmes spécialisés dans les nouvelles technologies, des experts auprès des tribunaux, l'expert auprès du tribunal, à chaque audit, réclame une supervision. Et les gendarmes s'arrachent les cheveux quand ils n'ont pas de supervision pour essayer de les récupérer. Parce que ça veut dire que derrière, ils ne savent pas où vous chercher et c'est une perte de temps et voilà, ils ne sont pas efficients. Donc vraiment, la supervision va vous aider pour la sécurité en fait, de votre système d'information. On n'y pense pas forcément, mais c'est un point essentiel. Enfin, pour finir, et c'est peut-être le plus important, poursuivre et justifier. On est dans une société maintenant, au niveau professionnel, on vous demande en permanence de justifier votre travail, de justifier vos actions, de justifier que ce que vous avez fait, c'est bien fait. Mais la supervision va vous aider à ça. Elle vous permet de justifier la disponibilité de du système d'information, la fiabilité, sa maintenabilité, et petit point qu'on oublie souvent, le budget. Chaque année, il faut renouveler le budget pour pouvoir travailler. Donc, mais comment ? Comment la supervision peut vous aider à faire ça ? Mais en faisant ce genre de vue, on appelle ça ce genre de tableau de bord en fait, en concaténant toutes les données de supervision, on va être capable de sortir une disponibilité de service. Là, l'exemple, c'est tous les antivirus en Europe. Et bien, on va être capable de savoir sur une journée, ça peut être même sur une minute, sur une semaine, sur un mois, sur un an, sur plusieurs années, savoir leur disponibilité si le service a été rendu. Donc là, sur un jour, il était 99,26%, c'est acceptable, et il a été en état critique, donc non fonctionnel, 0,74% du temps. Donc ça, c'est l'état global des antivirus en Europe. Après, on peut avoir le détail plus finement, et savoir lesquels ont pesé sur cette indisponibilité, lesquels ont été le plus en panne, etc. Donc là, vous allez vraiment avoir des tableaux de bord pour bien visualiser votre disponibilité. Ensuite, on peut avoir c'est des rapports faits à base de business intelligence, donc ça c'est plutôt ce que vous allez donner à vos DSI, des petits carrés, des petits smileys, ça va plaire, qui permettent la même chose en se basant sur les données de supervision, à remonter par exemple les niveaux de service et savoir quelles sont vos activités métiers qui ont été qui ont eu le moins bon niveau de disponibilité sur le mois en fait. Donc on voit que là ça a été le mail, le réseau. À 100%, donc ça veut dire que tous les autres étaient à 100%, donc c'est déjà pas mal. On va voir aussi la durée totale d'indisponibilité, savoir combien de temps ça a duré. Donc là, ça a duré 5h30 sur un mois complet. Après, on va l'avoir sous forme de bâton. Voilà. Avec des données de supervision, on va être capable de générer ce genre de rapport. On peut faire un autre genre de rapport sur la fiabilité et la maintenabilité. Alors, la fiabilité, c'est le temps moyen entre deux pannes. Plus il est long, mieux c'est. Donc là, on va pouvoir calculer entre deux états, entre un état critique et un état OK, ils sont passage à un état OK, mais la durée, le temps qui s'est passé entre les deux. Donc ça va nous donner la fiabilité de fonctionnement de cet équipement. Après, on a la maintenabilité. La maintenabilité, ça va être le temps de remise en service. C'est le temps entre... Voilà, le temps de moyenne de réparation des pannes en fait. Donc il faut qu'il soit le plus faible possible. Ça veut dire que vous avez été efficace pour réparer. Donc la supervision, elle va voir qu'à un moment il y a un état dégradé, et puis après ça va repasser à un état OK, donc elle va calculer les temps entre les deux, et pareil, ça va vous donner la maintenabilité. Oui, la fiabilité, j'ai dit une bêtise tout à l'heure, c'est entre deux états dégradés en fait. Voilà, donc allez, toutes les données de supervision vont être capables de faire aussi, de calculer ce genre de choses. C'est ce genre de choses qui est demandé par vos DSI en fait. Et grâce à ça, vous allez pouvoir dire, mais non, si on vous dit non, mais attends, ton service n'a pas été du tout disponible toute la semaine, ça n'a pas du tout marché, ou non, il y a eu une panne tel jour, ça a duré 4 heures, vous allez pouvoir dire non, regarde. Là, déjà, la disponibilité, typiquement, si on revient sur l'antivirus, on va vous dire, mais ça a été disponible pendant 2 jours, vous allez, ou pendant toute une journée, on va lui dire non, regarde, sur la journée, j'ai eu 0,74%. D'indisponibilité, donc c'est pas vrai ce que tu me dis là. Moi, la supervision, elle me dit le contraire. Je me base là-dessus. Là, ça me dit que le service a été rendu. Pareil, dire que la panne, la fiabilité d'un produit n'est pas fiable, on va me dire ouais, mais mon application n'est pas fiable, elle ne marche jamais. Mais si, regarde, c'est elle qui a pendant, je dis n'importe quoi, pendant 48 heures, elle a été fiable, ou pendant un mois complet, il n'y a jamais eu de panne, donc ne me dis pas que ça n'a pas fonctionné, c'est pas possible. C'est plutôt toi qui n'as pas réussi à t'en servir. Quoi. Donc voilà. Vous allez avoir un peu de matière en fait pour vous disculper, pour pouvoir justifier et dire non, j'ai bien travaillé, voilà, la preuve, voilà, j'ai des données, c'est un peu factuel. Par rapport au budget, donc là je reprends l'exemple encore des disques, mais, pour justifier par exemple l'achat d'un nouveau disque, on va dire regardez la tendance. La tendance, ça commence à devenir exponentielle, on utilise de plus en plus d'espace disque, donc il y a un moment, on va arriver à saturation, il va falloir qu'on achète des disques. Ça, ça vous permet d'avoir des bases pour dire non, il faut acheter de nouveaux disques. A contrario, ça peut vous aider aussi à diminuer les coûts. Si vous êtes dans une politique, il y a une politique d'entreprise qui dit qu'il faut diminuer les coûts, ça va permettre de diminuer en vérifiant l'utilisation des ressources d'un serveur, par exemple. Vous allez voir que le serveur, en fait, il est sous-utilisé. Donc éventuellement, vous pouvez rajouter un applicatif dessus, une application métier dessus, pour la faire fonctionner. Et puis la prochaine fois, quand vous allez refaire le renouvellement de votre serveur, vous allez en prendre un peu plus faible, qui va coûter un peu moins cher. Vous allez pouvoir dire, regardez, là, j'ai pu gagner un peu d'argent, ce genre de choses. On peut imaginer ça aussi pour le réseau, si on peut vérifier les bouts d'étranglement, par exemple, et dire, ben, là, il va falloir qu'on rajoute des switches, il va falloir qu'on recable, ce genre de choses. Donc la supervision va vous permettre aussi de justifier votre budget, et c'est important, parce que si vous avez un budget baisse continuellement, ben vous n'allez pas réussir à maintenir votre système d'information de manière efficace. Donc pour terminer, la supervision elle permet d'améliorer la performance globale de son SI. Donc là, on va reprendre ce qu'on a vu, grosso modo, en mettant en place une démarche proactive. On l'a vu, on va anticiper les problèmes. Si on commence à voir qu'il y a un état warning, par exemple, on va se dire ben, je vais commencer à le corriger avant qu'il y ait une critique et que j'ai une perte de rendu de service. On a une amélioration du temps de prise en compte des incidents, ce que je vous ai dit. Quand on a une alerte, on va créer directement un ticket d'un outil de gestion des tickets. Donc là, on va être très rapide. Il n'y a pas à attendre que l'utilisateur appelle, oui, ça ne marche pas, etc., etc. Là, ça sera pris en compte de suite. Amélioration du temps de résolution des incidents. On a discuté avec l'aide à la résolution. Voilà, on va avoir une base de départ avec beaucoup d'informations pour pouvoir travailler et être beaucoup plus efficace. Elle va permettre d'améliorer la visibilité de l'état de votre SI. On l'a vu avec les rapports, voilà, on permet d'avoir des taux de disponibilité, c'est associé à la mesure des niveaux de service, voilà. Voir l'état, est-ce qu'il a bien fonctionné, est-ce qu'il n'a pas fonctionné sur un mois, sur un an. Après, on peut faire la mise à disposition de vue spécialisée. Le DSI va vouloir avoir une vue globale. Après, peut-être que la partie, si vous avez une entité base de données, ils vont vouloir voir ce qui nous concerne pour les bases de données, comment les bases de données étaient, est-ce qu'elles ont été disponibles, est-ce qu'elles ont bien fonctionné, tout ce genre de choses. Le suivi de la performance de votre infrastructure et de vos applications grâce à la métrologie. On va avoir des données quantifiables. On va avoir mon application elle a répondu en temps de secondes, en temps de millisecondes. Ma base de données, la même chose. J'ai ma requête, elle s'est exécutée en temps de secondes. Mon disque dur, mon espace de stockage, il grandit, il est utilisé à 80%. Et on va pouvoir mesurer des tendances pour alimenter le processus d'amélioration continue. C'est-à-dire qu'on va pouvoir voir, grâce à la fiabilité et la maintenabilité, quels sont les éléments qui ont les pannes les plus courantes, les plus régulières, qui sont très souvent en panne, et donc travailler plus spécifiquement sur eux pour pouvoir améliorer le fonctionnement de votre SI, et donc avoir un meilleur rendu de service et avoir une... retour client plus satisfaisant en fait. Client interne, je parle de ça. Donc ben voilà, j'espère que grâce à ça, vous savez ce qu'il vous reste à faire, que vous allez pouvoir investir un peu plus sur la supervision, mettre en place la supervision chez vous, que ça va vous donner envie de vous y intéresser un peu plus et ben, que maintenant on puisse en discuter avec une série de questions. Et voilà. Donc je vous remercie de votre attention. J'espère que j'ai pas trop endormi demain ce samedi matin. Et ben, voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition et c'est avec plaisir que j'y répondrai. Américaine, il y a le micro.
Oui, donc je suppose que Centréon répond à toutes ces
Bien sûr.
ça. Et donc, est-ce que tu pourrais nous présenter un peu plus l'outil? Mais peut-être qu'il y a d'autres questions auparavant, mais qui seraient peut-être plus
Ouais, éventuellement, ouais, s'il y a des questions un peu plus précises sur ce qu'on a vu, après on fera je présenterai un peu plus en détail
Justement, Centréon, c'est un ensemble d'outils ou c'est un outil à part entière? Parce que moi, je sais que j'ai mis en place un truc à l'arrache, la méthode à l'arrache, Anadios 3.
D'accord.
C'est un outil, et après, je ne connais pas ce que c'est en particulier. Je ne sais pas si c'est une agrégation d'ensemble d'outils ou si c'est un truc qui est développé.
C'est une surcouche en fait à Geoff parce que c'est un produit qui est totalement indépendant.
Alors, à la base, bon, on revient à la présentation de Nagios à l'arrivée, de Centréon, pardon. Bon, personne sur. Ça a été clair pour tout le monde. D'ailleurs, lundi, vous mettez tous en mettre de la supervision.
Donc, là, toutes les captures d'écran qu'on a vues,
Oui.
c'était des captures d'écran de Centréon, c'est ça?
Oui. C'est ça.
Il va falloir répondre.
Hein. Ouais, je vais pas y échapper. Alors, Centréon, à la base.
Que ça pouvait se plugger donc sur des systèmes de log centralisés et pareil sur des sur les systèmes de tickets et est-ce que ça peut se plugger justement sur des outils comme RedMine pour la gestion de tickets et Syntree pour la gestion de logs centralisés?
Ça pourrait être imaginable. Actuellement, nous, on essaie de travailler avec GLPI pour la gestion des tickets en fait. Ça peut être faisable. Il faut que l'outil en fait puisse mettre à disposition une genre d'API ou des web services pour qu'on puisse créer des tickets automatiquement.
En fait, il y a des plus, on peut, plus, enfin, on peut créer des
Ouais, on peut créer des petites choses qui vont permettre de créer automatiquement les tickets. En fait, ça va être basé sur ce qu'on a vu sur les réactions automatisées en fait. C'est-à-dire qu'à la levée d'une alerte, on va avoir une réaction automatisée qui va créer automatiquement le ticket d'un outil de gestion de tickets en fait. C'est ça le principe. Donc généralement, c'est des petits scripts qu'on exécute et qui permettent de faire le lien. Bon, Centréon. Alors, originellement, Centréon, c'était une interface de configuration en Agios. Parce qu'en Agios, c'était tout dans le fichier plat, il fallait faire ça manuellement à coup de VDI. Donc, il a été décidé de faire une interface graphique de configuration. Et en fait, Agios, au fur et à mesure, a laissé de côté sa partie open source, en fait, sa communauté. Le créateur, Gaëtan Gallstadt, a monté sa propre entreprise et a décidé de mettre tout l'investissement dessus. Donc en fait, il y avait quand même une communauté assez importante, parce que c'était l'outil phare de supervision il y a quelques années. Et il ne prenait plus en compte les demandes d'amélioration, il n'y avait plus de bug fix, il n'y avait quasiment plus rien. Les versions sortaient avec des durées extrêmement longues. Donc il a été décidé à un moment en fait, d'essayer de se séparer de développer en fait après nos propres moteurs de supervision et tout l'écosystème qui tourne autour en fait pour pouvoir prendre en compte les retours de la communauté, pouvoir suivre les besoins aussi. Et donc on a développé le pendant de Nagios, qui s'appelle Centréon Engine en fait, qui est aussi enfin, qui est open source, qui est le moteur de supervision et ce qu'on appelle aussi Centréon Broker, qui est le broker d'événements qui permet d'insérer les données en base données pour qu'on puisse les remonter dans l'interface de supervision en fait. Donc effectivement, c'est vraiment maintenant une solution de supervision en fait globale qui va vous permettre de faire de la configuration, qui va vous remonter les informations, qui va vous permettre de faire du rapport, qui va vous permettre de vous lier avec d'autres éléments automatisé, par exemple les outils ticketing, de la gestion de langue, ce genre de choses. Au niveau, après, si vous voulez aller voir plus en détail, on a une démo en ligne, c'est demo.centrion.com. Vous avez le site web www.centrion.com. Si vous rencontrez des difficultés, il y a un forum, c'est forum.centrion.com, c'est compliqué. Vous allez voir, il y a une documentation, je vous laisse deviner l'adresse. Alors en anglais, ça sera documentation.centrion.com, en français, c'est documentation-fr.centrion.com. Et on a aussi un IRC, et là, je ne vous ferai pas l'affront de vous dire quel est le channel sur l'IRC. Hein? Freenode. C'est une bonne remarque. Voilà, après, que dire sur Centrion? On maintient, donc, comme je disais, il y a une société, il y a un éditeur logiciel derrière, mais on maintient quand même la communauté open source. On est, voilà, nous, notre présence ici, on est présent au Romoleu depuis 4-5 ans. Le cœur de la supervision, l'utilisation de la supervision est open source. Rien ne vous empêche de l'utiliser, vous pouvez l'utiliser chez vous, il n'y a aucun souci, c'est téléchargeable très facilement depuis le site. Vous avez aussi une distribution packagée en fait, qui s'appelle la Centrion Enterprise Server, qui est aussi disponible gratuitement, qui est en fait une CentOS qui a été repackagée pour que vous installiez directement Centrion en fait. Vous mettez l'ISO, ça s'installe et vous avez un Centrion qui est prêt à être configuré et prêt à être utilisé en fait. Donc c'est pratique si vous voulez tester, voilà. Je vous conseille de partir plutôt sur la Centrion Enterprise Server.
Et pour les logs centralisés,
Alors, on a un module communautaire qui s'appelle Centrion Syslog, qui permet de récupérer les logs avec... c'est un syslog qu'on utilise derrière. Après, avec d'autres outils, actuellement, on n'en fait pas trop. Là, ça va être plutôt de la corrélation visuelle et manuelle, on arrive. Si, vous, par contre, vous centralisez vos logs avec un syslog, on est capable de les récupérer, de les insérer, de pouvoir les afficher...
Pour la communication avec les deux, bon, c'est ça, c'est ce protocole SNMP.
Entre quoi et quoi
aussi, entre la machine supervisée ou
supervisée. D'accord, les éléments. Alors, il y a plusieurs protocoles disponibles. Le principal, c'est SNMP, donc, qui est fait pour ça. C'est Simple Network Management Protocol, il me semble. Donc, c'est vraiment la définition exacte. Donc, après, on a. Protocoles spécifiques de supervision qui ont été développés à l'époque par Nagios, qui sont quand même très utilisés, qui s'appellent NRPE. C'est un mode client-serveur en fait, un agent client même. Donc il y a un agent qui tourne localement sur la machine en fait et qui va à la demande exécuter des petits scripts, des petits plugins qui sont présents localement et qui vont remonter l'information. Après il y a des choses spécifiques dans le mode Windows, malheureusement. Qu'est-ce qu'on a en SMP, ça, voilà, c'est NRPE. Après on a, ouais, c'est ouais, principalement ça, de toute façon, là, 90% de la supervision c'est de SMP. C'est le plus simple à mettre en œuvre en fait. C'est le plus simple à mettre en œuvre. Bon, c'est tout. Ça couvre, ouais, ça couvre 90% des besoins. Après, si vous voulez commencer à travailler avec, ouais. Partez sur SNMP, c'est le plus simple. Il y a déjà énormément de plugins qui existent. Après, à bien regarder parce qu'ils sont plus ou moins bien faits. Il y a une grande communauté, mais après la qualité des plugins, c'est pas toujours terrible.
Donc, voilà. Niveau langage de programmation qui est utilisé pour les plugins, c'est
tout. À partir du moment où le système d'exploitation est capable de l'interpréter, tout. On fait du PR, du Bash, du Java, du PHP, du Python, du C, on peut tout faire en fait. On peut tout faire. Il n'y a aucune restriction sur le langage en fait. Après, bon, choisir quel est le plus performant. Voilà, c'est la seule restriction. Il faut que ça soit interprété, exécutable sur le système d'exploitation. C'est tout. Alors, si vous êtes bon, c'est du C. le plus performant. La majorité après les plugins, ça va être du Perl et du Python. Un peu plus de Perl que de Python. Personne d'autre? Ouais.
Une question. Vous diriez qu'il faut mieux faire la réaction quand il y a un souci avec l'outil de supervision, directement le gérer dans le système?
Alors, c'est une super bonne question. On peut le faire sur des cas assez simples. On peut le faire directement au niveau de la supervision en s'assurant bien que le processus est présent. Par exemple, un processus qui ne tombe pas, Apache qui ne fonctionne plus, on pourrait le faire. On va juste vérifier avant qu'effectivement il est bien tombé. Et ça, on pourrait le réparer automatiquement. Après, sur certaines choses, ça va être compliqué. Parce que, comme j'ai dit, c'est peut-être des causes qui sont... ce qu'on remonte, en fait, c'est juste le dysfonctionnement. Mais il y a peut-être des causes initiales avant qui ont fait que ça arrive là. Donc, la réaction automatisée va être plus difficile à faire. Il vaut mieux là essayer de récupérer toutes les informations, de vraiment corréler, et après manuellement là d'aller faire les réparations ou le contournement en fait. Les réactions automatisées, ça va être sur des choses simples. Ouais. Généralement, c'est du on redémarre les processus. C'est souvent ça la réaction automatisée.
Est-ce qu'on a des contre-exemples genre de réaction automatisée? On sait que ça peut poser des
si par exemple alors ça peut être par exemple sur un service qui bagote, c'est-à-dire que d'un coup il est up down, ça n'arrête pas d'osciller en fait, ben là vous allez peut-être redémarrer quelque chose qui est déjà démarré. Vous allez faire une action corrective sur quelque chose qui repasse en fonctionnement derrière. Donc c'est toujours, enfin, il faut trouver juste le milieu au niveau de l'action, la réaction automatisée. Ça peut être très pratique, mais c'est dangereux quand même à mettre en place. Donc c'est vraiment à vérifier et à faire sur des cas très précis, très pointus. Personnel, je suis pas très fan des réactions automatisées, mais voilà, ça existe, ça peut être faisable. Voilà. Après, les réactions automatisées, on va s'en servir pour autre chose que du correctif, comme je disais, pour faire de l'alerting, pour faire des créations de tickets, pour remonter des informations à autre chose si vous avez quelque chose au-dessus. Voilà, ça sert pour ça a été un peu la réaction automatisée a été un peu détournée pour faire d'autres choses, mais voilà, faut être sûr, faut vraiment être sûr de ce qu'on fait, parce qu'effectivement, on peut pour rien derrière, malheureusement, si on fait si c'est pas bien géré.
Une migration de l'Agios vers Centreo, ça serait assez facile aujourd'hui?
Centreo est capable de parser, on peut importer les fichiers de configuration de l'Agios dans Centreo, et ça, après ça les réinjecte en base de données pour qu'on les voit apparaître dans l'interface de configuration. Actuellement, on est encore compatible Nagios sur les versions actuelles.
Donc les outils genre Send, NSA, pour les actions faciles,
ça fonctionne aussi. NSClient++, NRPE, NSA. Alors, NSA. Je crois qu'NSA, si je ne dis pas de bêtises, il y a un nouveau licensing Nagios qui est sorti et je crois que NSA fait partie de ces licences, de ces outils qui ne peuvent être plus utilisés qu'avec Nagios. C'est pour ça que je disais, Nagios, il faut commencer à l'oublier parce qu'il est en train de verrouiller le fonctionnement en fait. Et il est dépassé. Donc, c'est vraiment plus l'outil à utiliser pour de la supervision actuellement Nagios. Mais oui, après tout le reste est compatible. Les plugins Nagios sont compatibles sans Treon. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc ça se fait simplement. Personne?
Je pense assez de pour de la DSI d'entreprise, pour le particulier, est-ce que c'est pas trop lourd, c'est pas un temps pour
non, c'est. Bouche. On parle pas non plus, on parle quand même pas d'une application Java, on parle pas de SAP quoi. Hein. Ouais, c'est peut-être un peu overkill. Perso, moi je l'utilise, voilà, savoir dédié, j'ai un âge, j'ai ce genre de choses, donc je le supervise avec Centreon, donc ça me permet d'avoir un peu d'alerte si j'ai un souci. Grâce à la Centreon Enterprise Server, à l'ISO 4G, en fait, ça s'installe super rapidement, donc on ne perd pas de temps là-dessus. Après, c'est juste configurer, à rentrer les équipements et les indicateurs qu'on veut superviser. Et voilà, donc ça se fait très rapidement. Ça se fait très rapidement, il n'y a pas de souci. Après, c'est sûr que si c'est juste pour superviser votre frigo, enfin, voilà.
Par exemple, dans le cas de taux d'hébergement.
Ouais, là, par contre, ouais, pour moi, là, c'est un.